Bien, vous avez entendu parler de cette histoire, cet homme de 82 ans qui était très mal en point dans un CHSLD après avoir été victime d'une chute assez mystérieuse, finalement. En tout cas, ça s'est passé vendredi soir dans des circonstances nébuleuses. On essaye de comprendre ce qui s'est passé. C'est un décès qui soulève de nombreuses questions et un peu d'indignation, je vous avoue, parce que quand on voit un monsieur comme ça qui souffrait d'Alzheimer, pas forcément un cas hyper grave d'Alzheimer, mais une certaine quand même maladie, hein, vous le savez, ça va nous toucher tous, ou en tout cas beaucoup de monde vont être touchés par ça. Soit si c'est pas vous, ça va être votre proche. Et il était dans un CHSLD. Sa fille France est avec nous. Madame Bastien, bonjour.
Bonjour.
On va s'intéresser à ça justement, au traitement des gens qui souffrent et qui souffraient comme votre père de maladie d'Alzheimer. Vous avez appris, vous, que vendredi soir, votre famille a rendu visite, comme d'habitude, à votre père. Vous l'avez quitté vers 5 heures et vers à peu près 8 heures du soir, vous avez reçu un appel.
Oui, exact. En fait, ma mère et mon frère sont allés voir mon père, là, comme on fait à toutes les semaines, à toutes les fins de semaine. Il y a toujours quelqu'un qui allait le visiter. Vendredi, ma mère et mon petit frère étaient là de 3 heures jusqu'à presque à 5 heures. Là, au moment du souper, quand ils s'attablaient, mes parents sont partis. Ma mère puis mon petit frère sont partis. Dans la soirée, ma mère a reçu un appel de Roland Leclerc.
Du CHSLD, là,
oui. Oui, exact. Ma mère a se souvient que c'est une dame médecin qui l'a appelé pour lui dire qu'il y avait eu une altercation entre mon père et un gardien de sécurité, qui l'avait poussé, qui est tombé, qui s'est cogné la tête. Il avait vomi, il saignait du nez, mais il disait que il considérait que c'était une commotion cérébrale, qu'il était pour ça allait mieux, qu'il l'avait à l'œil, puis que.
Et quand votre frère Marc est arrivé, votre père était seul.
C'est pas la même histoire.
Non.
C'est pas la même histoire. Moi, ma mère, en plus, ma mère, elle s'est comme posé la question parce qu'elle dit comment ça qu'il m'appelle moi. Ça fait 2 ans que mon père est dans le réseau puis il appelle toujours mon petit frère parce que ma mère peut pas se déplacer toute seule. Fait que là, ma mère, elle a tout de suite appelé mon petit frère. Puis là, mon frère, il est allé peut-être, mettons, 20 minutes après, là, 20-30 minutes, là, le temps de se rendre. Puis il est arrivé, mon père était tout seul sur le bord du lit, avec plein de vomi et de sang partout. Là.
Incroyable. Puis c'est lui qui a appelé le 911, là. C'est votre
frère. Oui, là, mon petit frère est allé dans le passage, là, il a crié pour que les infirmières viennent. À ce moment-là, il a appelé tout de suite le 911 pour que les ambulances viennent le chercher pour l'amener à l'hôpital.
D'après vous, qu'est-ce qui a pu se passer? Parce qu'on dit que c'est un gardien de sécurité qui l'aurait poussé parce que votre père était violent. Est-ce que vous...
Ben, mon père est pas... En fait, dans sa vraie vie, il a jamais été violent. Ça, c'est une chose aussi, là. Mais dans la maladie d'Alzheimer, moi, mon père, il faisait de l'errance. Mm-hmm. Donc, il se promenait parce qu'il marchait encore, il parlait encore. T'sais, s'il voyait une madame en chaise roulante qui était prise après... une porte, il l'aidait à se déplacer, il aimait beaucoup aider les autres, là. Mais quand il se promenait comme ça, il revenait pas nécessairement à sa chambre, puis il aurait pu aller se coucher dans la chambre d'un autre malade. Mm-hmm. Et là, ça indispose les gens. Donc, le gardien était là pour le ramener vers sa chambre, pour le réorienter vers sa chambre.
Et là, est-ce que vous avez l'impression que votre père était conscient de ce qui s'est passé?
Ben moi j'ai l'impression que mon père il s'est senti menacé par le gardien parce que ça aurait il y a un des gardiens qu'on a déjà eu mon père il le regardait tout le temps de côté pourquoi qu'il me regarde pourquoi il me suit pourquoi qu'est-ce qu'il fait là alors qu'il y avait des gardiennes des fois qui venaient puis qui disaient hey monsieur Bastien c'est moi la chanceuse qui vient coucher avec vous ce soir ça a pas du tout le même la même dynamique mettons avec mon père là. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Il ne savait pas les réactions potentielles s'il suit mon père sans y parler ou sans être le plus normal possible. Là. Peut-être que mon père, moi, je pense qu'il s'est senti menacé par le monsieur.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec votre famille, France Bastien? Parce que apprendre que son père a été poussé, que les blessures majeures qu'il a subies ont mené à sa mort...
Ben c'est pas juste sa mort, hein, c'est qu'il y a eu énormément de douleurs aussi, là. T'sais, nous, on savait que depuis 2 ans avec l'Alzheimer qui était pour partir, là. On a déjà perdu un peu de notre père avec les années. Mais là, c'est pas juste qu'il est parti. Il est parti avec beaucoup de douleurs. ce qu'on a l'intention de faire, la première chose qui va être importante, c'est là, on a décidé de porter plainte officiellement samedi soir. On veut savoir ce qui s'est passé pour vrai. Il semble avoir comme un silence total du côté de l'agence de sécurité. Et le CHSLD, le Roland Leclerc, non plus, il ne semble pas vouloir rien dire. Là, ils n'auront pas le choix de répondre. Là. Puis là, mon père a subi une autopsie aussi aujourd'hui. Là. Il va avoir l'enquête du coroner. Ça va nous éclairer, là, on va savoir. En fait, il y a comme plusieurs volets à ça. On veut savoir ce qui s'est passé, puis on veut juste plus que ça se reproduise à personne.
Voilà.
Il faut savoir ce qui est arrivé, il faut savoir ce qui aurait pu arriver pour pas que ça arrive.
Effectivement. Merci beaucoup, France Bastien. Surtout, bon courage à vous et à votre famille.
Merci beaucoup.
Merci bien. Je voulais parler de cette histoire-là parce que ça touche tellement de gens. Guylaine Martin est avec nous. Elle est directrice générale du Baluchon Alzheimer. Bonjour, Guylaine.
Bonjour.
Vous êtes justement l'organisme, le Baluchon Alzheimer, offre du répit aux proches des gens atteints par cette maladie-là. L'Alzheimer, c'est pas une maladie comme les autres. Ça peut pas être géré par un gardien de sécurité comme ça. Comment qu'est-ce que vous comprenez de cette histoire d'abord, Guylaine?
Bien, c'est sûr que c'est confrontant. On voit la difficulté de bien encadrer, de bien accompagner ces gens-là. Il y a, c'est pas autant du savoir-faire que du savoir-agir qui est nécessaire. Quand nous, on embauche nos accompagnatrices spécialisées, qu'on appelle des baluchonneuses, même si elles arrivent du milieu de la santé ou qu'elles ont accompagné quelqu'un qui a déjà eu la maladie d'Alzheimer, leurs parents, leurs voisins, leurs frères, leurs sœurs. Malgré ça, il y aura une formation obligatoire d'au moins 21 heures sur ce concept d'accompagnement. Parce qu'on le sait que la personne atteinte de maladie d'Alzheimer vit dans son monde à elle. Et on doit se mouler à son monde. Quand Mme Bastien disait que l'approche de l'agente de sécurité et créer une toute autre dynamique, c'est vrai. Donc, parfois, on comprend pas toujours pourquoi il y a une escalade d'émotions, pourquoi il y a une désorganisation, mais l'important, c'est de voir venir ça. Il y a des symptômes qu'on peut prévoir. T'sais. On voit le regard hagard, on voit l'énervement monter, on voit, parfois, il y a de la transpiration, on les voit, il y a de la peur qui monte parce qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive.
Et l'agressivité verbale ou physique de la part des gens qui ont cette maladie, l'Alzheimer, ou toute autre maladie dégénérative avec...
atteinte cognitive.
Voilà. Ça, normalement, les gens qui sont dans un contexte hospitalier, CHSLD, centre d'accueil, foyer, ils doivent être au courant de ça.
Tout à fait. Ils doivent être au courant. Ils doivent surtout savoir désamorcer.
Ça fait partie de leur travail.
Oui.
En tout cas, on pourrait espérer que ça fasse partie de leur travail.
Puis, il y a des fois où c'est pas possible de désamorcer. Ça arrive, là. Même à domicile, ça arrive qu'on n'est pas capable de désamorcer. Mais à ce moment-là, il y a des stratégies aussi. Tu te retires juste de son environnement, juste pour plus qu'il te voit pendant 2, 3, 4 minutes. Ça échange les idées. Des fois, tu es capable de revenir après. Donc, il y a vraiment des stratégies. Et nous, nos accompagnatrices spécialisées sont formées pour transmettre ces stratégies-là aux proches aidants. Donc, ouais. Au-delà de donner du répit, on veut accompagner les proches aidants. Mais depuis maintenant, 2012, on a développé une petite formation à Baluchon qui s'appelle « Savoir-être pour pouvoir agir », qui est une formation qu'on trimballe dans notre petit Baluchon, un petit peu partout, autant ici qu'en Europe, justement pour des non-professionnels qui prennent soin de cette clientèle-là pour leur dire « ben voilà, la communication est essentielle, le savoir-agir est essentiel ».
Allez-vous en CHSLD, là, donner parfois cette formation?
C'est jamais arrivé.
Jamais?
Jamais.
Ils vous ont jamais demandé?
Jamais.
Ils savent comment gérer ça?
Je présume.
Qui pensent qu'ils savent? C'est incroyable.
Mais
pareil.
Dans le cas qui nous occupe, moi, ce qui me préoccupe, c'est l'agent de sécurité. Tu sais, Garda, toutes ces grosses agences-là qui, effectivement, sont nécessaires pour la sécurité, pour l'environnement et tout et tout. Moi, j'en suis, mais au même titre que les policiers, au même titre que les pompiers, on voit une sensibilité sociale se développer. Les gens comprennent de mieux en mieux l'importance de l'approche avec cette clientèle-là, mais on voit que c'est pas généralisé encore, puis ben peut-être que c'est un signal d'alarme qu'il faut retenir. Là.
Puis je retiens, France Bastien le disait, puis elle l'a dit dans plusieurs entrevues, que le mot indisposé. Elle dit ça. Mon père indisposait beaucoup les gens autour. Alors, c'est sûr qu'il y a les autres patients, malades ou CHSLD, c'est pas forcément que du monde non plus malade. Des fois, c'est juste des gens vieux qu'on sait plus où mettre, là. Puis comme ils vont pas d'affaires à l'hôpital, puis qu'il y a plus personne de s'occuper d'eux, des fois, c'est là qu'ils se ramassent. Mais donc, je suis pas sûre de la façon dont on traite bien les gens. Puis c'est la question qu'on veut poser à nos auditeurs ce matin. Est-ce que le personnel en centre d'accueil ou en CHSLD sait bien s'occuper de ces personnes-là qui souffrent d'Alzheimer ou de maladies dégénératives? Mais plus largement, j'aurais envie de dire, est-ce que il y a tellement de cas? Est-ce qu'on sait bien s'occuper des gens? On les appelle les bénéficiaires, mais tu bénéficies de quoi comme soins, véritablement? Nos numéros, vous les connaissez, 514-790-9850 ou le sans frais, bien sûr, 1-866-790-9850. C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire ce matin? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont des familles, qui sont en CHSLD, qui reçoivent des soins en centre d'accueil. Et c'est une inquiétude énorme pour vous, je le sais, de savoir si votre proche est bien entouré, s'il reçoit les bons soins. À tout de suite, tout le monde. On se demande ce matin si le personnel en centre d'accueil ou en CHSLD est assez formé pour s'occuper des personnes qui vivent avec l'Alzheimer ou toute autre maladie dégénérative qui font qu'en fin de vie, comme ça, dans les dernières années de ta vie, ben, tu te souviens plus trop de grand-chose finalement. Et tu peux avoir aussi des réactions qui sont... Oui, peut-être, entre guillemets, dérangeante pour ceux qui connaissent pas la maladie, mais quand on est dans un CHSLD ou dans un foyer d'accueil, on devrait être entouré de professionnels de la santé qui ont un minimum de base. En tout cas, ils sont supposés être plus habilités que nous, n'est-ce pas, Guylaine? On a avec nous Yves qui nous appelle. Bonjour. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus parce que vous avez vécu une situation similaire avec votre belle-mère il y a 3 ans, Yves.
Oui.
Elle a fait une chute, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, mais ils devraient revoir le protocole de fin de vie de ces personnes-là. Ma belle-mère a tombé dans un foyer. Elle s'est ouvert le front assez gravement. Apparemment, ils l'ont transportée à l'hôpital et ils l'ont retournée au foyer avec le terme « soins de confort ». Et les soins de confort, c'est pas y donner d'eau, pas de nourriture. Fait que nous autres, on s'est objectés, on a rencontré le personnel, mais c'est ça parle pas. On n'a pas moyen de rien savoir. Fait que on a suivi notre belle-mère quasiment tous les jours, puis elle avait des médicaments. Elle était semi-consciente, mais elle est décédée au bout de 8 jours de faim et de soif.
Oh mon Dieu.
Fait qu'on a appelé personnellement le coroner, on a demandé une enquête parce que ça n'a pas d'allure. Mais il y en a plusieurs situations comme ça qui existent dans les centres d'accueil. Premièrement, quand il y a un incident, habituellement, on devrait avoir un rapport préliminaire avec des détails qui vont servir à tous les traitements qu'il peut avoir par après ou s'il y a quelque chose à modifier.
Mmh. Quel âge avait-elle, votre belle-mère?
Elle avait 90 ans.
Ouais.
Mais elle marchait, on allait la voir, elle nous reconnaissait.
Ouais. Vous avez porté plainte au coroner, mais vous attendez toujours, 3 ans plus tard, des nouvelles? Vous n'avez pas eu quoi que ce soit de...
Le coroner, on l'a appelé, puis ils nous ont dit qu'elle avait un traumatisme cérébral. Mais ça s'arrête là. Tu sais, la police ne fait pas enquête, rien, parce que c'est arrivé dans un centre d'accueil. On ne sait pas si ça a été poussé par un autre bénéficiaire. Mais dans les centres d'accueil, là, je vais vous dire honnêtement, là, le personnel, il n'y en a pas beaucoup. Ça court comme des queues de veau. Ça a de la misère. C'est pour ça que j'ai regardé l'émission tout à l'heure à la télévision avec Mario Dumont.
Ouais.
Puis il interrogeait les gens. Puis autrement dit, personne ne parle.
Non,
c'est secret. Puis tout le monde a peur à sa job. Puis, mais ce qui est important, moi, j'ai 73 ans actuellement. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Je vais dire une chose, si je m'en vais, si jamais j'ai l'Alzheimer, je vais m'en aller dans une place de même. Ça nous rend insécure même si on est en bonne santé encore.
Vous avez tellement raison, Yves. Vraiment, je pense que c'est un peu le sentiment de tout le monde ce matin. Merci beaucoup de votre témoignage. Bon courage. Catherine nous appelle. C'est son père, à Catherine, également, qui a vécu une situation difficile. Je pense qu'il est, décédé, votre père, Catherine. Bonjour.
Oui, c'est ça, exactement. Il était sur une unité d'hébergement dans un hôpital.
Oui.
Et puis, suite à une chute, il a eu tous les os du visage brisés. Mon père faisait de l'Alzheimer depuis 10 ans environ, là. Puis il était en fauteuil roulant. La surveillance est inadéquate. Puis comme disait monsieur, il n'y a pas moyen de rien savoir. Moi aussi, j'ai fait une demande au coroner. Puis selon les résultats de l'enquête, là, on aurait pu poursuivre l'établissement. Mais ma mère, qui avait à l'époque 85 ans, mon père 89 quand il est décédé, voulait pas embarquer là-dedans.
Ouais.
Mais je vais aussi faire une parenthèse. Moi, je suis infirmière auxiliaire en CHSLD.
Oui.
Ou plutôt, j'étais parce que j'ai démissionné au mois de mai dernier suite à une suspension de 6 mois que j'ai eue parce que j'ai dénoncé une situation de maltraitance organisationnelle.
Oh.
Oui. Écoutez, une semaine avant le décès d'une patiente, on a fait des interventions, mes collègues et moi, auprès de notre chef d'unité. Ça n'a rien donné. Donc, quand j'ai vu ça, moi, je suis allée voir le coordonnateur du site. Puis, je lui ai dit, écoutez, dans le cas de Mme Tell, là, si on fait rien, ce qu'on lui fait vivre, on va la tuer. Là, c'est sûr qu'il n'a pas aimé ce que j'y ai dit. Puis là, moi, je lui ai dit, écoutez, s'il ne se passe rien, moi, je vais communiquer avec les médias. Il n'aurait peut-être pas fallu que je dise ça parce que c'est l'omerta. Hein? Dans le réseau de la santé, tu n'as pas le droit de parler. Il faut que tu fermes ta boîte. Puis je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais que j'étais pour être suspendue. Peut-être pas aussi longtemps, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Puis
Qu'ils vous ont mis dehors, hein, Catherine? Comment
non,
c'est...
moi, j'ai démissionné après 6 mois. Parce que après mon 6 mois de suspension, quand je revenais, déjà, ils ont commencé.
Ils vous ont suspendu quand même, là. C'est ça, ils vous ont dit.
Oui.
Restez
oui.
chez vous, allez faire du trouble ailleurs, c'est ça?
Genre? Ouais, c'est à peu près ça. Mais on a fait un grief, hein, parce qu'on est...
syndiqué?
On est syndiqué, c'est ça, oui. Sauf que les processus sont tellement longs que les gestionnaires peuvent faire n'importe quoi en attendant que tu passes en cours. Puis, ils terrorisent les employés. Moi, je vais vous dire, je suis d'origine québécoise, là. Dans le réseau de la santé, il y a beaucoup d'immigrés.
Mm-hmm.
Et je comprends mes collègues.
Ils ont peur, ben oui. Ils n'ont pas
de réseau social, pas de réseau familial.
Ouais. Catherine, on doit conclure là-dessus, mais je vais prendre vos coordonnées. J'aimerais beaucoup que vous restiez en ligne. On va prendre vos coordonnées. J'aimerais ça qu'on refasse un sujet qui a trait à ça, ce que vous venez d'appeler la maltraitance organisée là, dans les CHSLD, entre autres. Puis là, vous êtes un témoin fabuleux. Alors, merci de votre témoignage ce matin et on aura l'occasion de se reparler, je vous promets. On va conclure avec notre invitée, Guylaine Martin. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent pour les rassurer?
En fait, écoutez, moi, j'arrive du milieu de l'hébergement avant d'être à Baluchon-Alzheimer depuis maintenant 11 ans. Avant, j'arrivais de ce milieu-là. Ce qui est triste, c'est que c'est ces histoires-là qui ressortent et non pas la beauté des environnements, le travail fait par les employés. Il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de pas bonnes dans le milieu, sauf que c'est toujours ces histoires-là qui ressortent. Puis, en fait, ce que je retiens, moi, là-dedans, c'est ben, peut-être que il y aurait eu besoin d'un encadrement, puis d'un accompagnement, puis d'une formation adéquate pour la clientèle.
Et il faudrait sans doute, la ministre Danielle McCann a dit qu'elle allait regarder cette situation-là, donc c'est clair que c'est un dossier qu'on va suivre. Merci beaucoup, Guylaine.
Merci à vous.